1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Alfred de Montesquieu.
Bonjour Philippe.
Vous êtes grand reporter à Paris Match, également écrivain, documentariste. Vous co-signez avec Julien Blangras un documentaire « Effondrement, sauf qui peut le monde ». C'est dans le cadre des soirées « Le Monde en face » présentées par Marina Carrère-Dancos. Alors je vais expliquer, je vais donner le contexte. Bien avant la pandémie planétaire de coronavirus, il y a eu le changement climatique, le saccage des ressources, la peur du nucléaire. Résultat, la crainte d'un effondrement de notre civilisation fait de plus en plus d'adeptes. Et ce courant autrefois était marginal, désormais il devient majoritaire. Un sondage récent de décembre montre que 60% des Français craignent l'effondrement prochain de notre civilisation. 6 sur 10, c'est peu dire que c'est majoritaire. De plus en plus de gens disent qu'il faut se préparer. On peut les appeler survivalistes, éco-activistes ou collapsologues. Le survivalisme, c'est né dans les années 60 avec la prolifération du nucléaire. Et là, votre enquête débute au Texas. Vous avez trouvé le promoteur immobilier de l'apocalypse, un certain Larry Hall. Qui est-il et qu'a-t-il construit ?
Oui, alors effectivement, Larry Hall, ce qui est intéressant, c'est qu'il est un peu à la... Il incarne la racine du mouvement, c'est-à-dire la peur du nucléaire, la peur d'apocalypse nucléaire. Alors Larry, c'est un millionnaire de l'informatique qui a racheté à l'armée américaine un silo de missiles atomiques qui datait du pic de la guerre froide, la crise des missiles de Cuba avec Kennedy. Et il a transformé ce silo, qui fait quand même l'équivalent d'un immeuble de 15 étages enterré dans le sol, avec des murs en béton armé de 3 mètres d'épaisseur, il l'a transformé en bunker de luxe. Alors c'est la première fois qu'il ouvrait ça à une caméra, c'est complètement hallucinant, c'est-à-dire que de l'extérieur on est dans les champs de maïs du Kansas, au fin fond de nulle part. On rentre, ça n'a pas l'air très grand. Alors premier sous-sol, il y a un espace de sport qui fait à peu près la taille d'un hall de basket enterré. Après, deuxième sous-sol, il y a une piscine de 40 mètres de long avec une cascade et des peintures murales, un mur d'escalade dans un coin. Et ensuite, il y a 13 étages d'appartements pour millionnaires ou milliardaires. Il n'a pas voulu nous dire qui étaient les propriétaires. Il nous a dit c'est des big guys de Hollywood, de la Silicon Valley, de Wall Street. Et en fait, ils ont une police d'assurance dans le prix de l'appart. Ils ont aussi une milice qui les amène de où ils sont jusqu'au bunker en cas de lockdown. Ça veut dire en mode fermé, quoi.
Ouais, alors j'ai vu le doc, alors vous ne donnez pas les noms, mais par contre vous donnez le prix, 3 millions de dollars, on peut s'acheter une suite pour venir avec sa famille. Il a pour 2 ans de nourriture, mais ça ne s'arrête pas là, car il a également conçu les moyens de faire lui-même pousser des plantes et faire vivre des poissons. Et là, c'est le paradoxe le plus stupéfiant qu'on découvre dans votre enquête, c'est que ce capitaliste pur jus réinvente, comme vous le dites si bien, une forme de communisme primitif et mise sur les énergies renouvelables. C'est le monde à l'envers.
Ouais, c'est assez étonnant. En fait, pour nous, c'était un peu une vision légèrement morbide du survivalisme. C'est ce type, c'est-à-dire que, en fait, il croit absolument pas à la cohésion sociale. C'est l'Américain pur et dur, ultra individualiste, ultra capitaliste. Tout se paye. Il y a même à l'entrée, pour vous dire, à l'entrée du bunker, près des salles de sport, il y a des chambres de bonne pour les domestiques. Ouais. Donc les millionnaires qui veulent venir peuvent venir avec leur bonne pour qui va faire leur passage et la bouffe pour l'éternité. Donc c'est pas du tout une vision du monde altruiste ni utopique. Et effectivement, quelles que soient vos réserves de nourriture, quelle que soit la taille de votre frigo, et là, enfin, le congélateur, il fait 50 mètres carrés. Donc, quelle que soit la taille des réserves, il y a un moment, on n'a plus de nourriture. Et comme lui, il a la réponse à tout, effectivement, il a mis au point un système d'aquaponie, c'est-à-dire donc des poissons, des carpes du Nil, en fait, dont les excréments, qui sont du nitrate, vont dans l'eau par un circuit, et cette eau-là irrigue des salades et des tomates qui poussent en hydroponie, c'est-à-dire sur des petits flotteurs, dans des bacs d'eau, quoi. Alors, et donc l'idée, c'est pouvoir vivre pour la vie éternelle. Mais effectivement, comme il dit, quand c'est la vie éternelle, il faut s'occuper. Et donc en fait, il dit it's a cruise ship, c'est comme un bateau de croisière.
Attendez, racontez pas
sauf
tout, parce
que vous faites partie de l'équipage.
Racontez pas tout, Alfred de Montesquieu, parce qu'il y a tellement d'exemples dont je voudrais parler que si on fait 5 minutes sur ce gars-là, on n'a plus le temps de parler des autres. Et il y a des trucs absolument passionnants dans votre enquête, très intéressant, parce que loin des clichés, le survivalisme de gauche, on a vu les pionniers qui étaient à droite, voire à l'extrême droite, et là le survivalisme de gauche, incarné par Yves Cochet. Il a été ministre de l'Environnement Lionel Jospin, c'est un ancien mathématicien, pour dire que c'est pas un farfelu, fondateur du parti Les Verts, c'est tout sauf un illuminé, c'est quelqu'un de très réfléchi. Il estime que l'épuisement des ressources, je cite, par contagion et médiocrité, va entraîner dans son sillage la famine et le chaos, et il donne une date.
Il y a une probabilité forte qu'en 2050, dans 30 ans, l'espèce humaine est disparue. Le mot transition est à la mode, mais je n'y crois plus. C'est-à-dire qu'en effet, il est trop tard pour espérer que l'effondrement systémique mondial, ça veut dire qu'en 2040, il n'y aura plus un seul État debout, que l'Union européenne n'existera plus, l'ONU non plus. Cet effondrement-là, il est, pour moi, quasi certain. On a vécu dans l'abondance, notamment les sociétés de l'OCDE, disons les 2 milliards d'habitants les plus riches depuis 50 ans. Ce truc-là, c'est fini.
Et son analyse, c'est que si le pétrole augmente énormément, Paris ne sera plus alimenté en nourriture, car ça dépend du marché de Rungis, la ville de Paris, lui-même alimenté en camion, donc on n'a plus rien à manger. Dans ce cas-là, et ici Churchill, entre la démocratie et la barbarie, il y a 5 repas. Mais franchement, ça fait réfléchir dans votre doc.
Ouais, c'est un peu anxiogène. Alors vous imaginez bien que Julien Blangras, donc l'écrivain de voyage avec qui j'ai réalisé ce documentaire, et moi, quand on sortait de ce genre d'interview, on était un peu secoué. Il y a deux réactions. Il y a celle de se dire bon ben il a raison, dans ce cas-là on est très mal barré, ou de se dire bon en fait c'est une espèce de c'est de la futurologie, mais c'est une forme de caricature, et dans ce cas-là d'en rire un peu. Alors évidemment, quand il y a eu le début de la pandémie et le début du confinement, beaucoup des prophéties d'Yves Cochet et d'autres survivalistes ont commencé à se réaliser. Et je peux vous assurer que moi, j'ai passé quelques jours un peu anxiogène, parce que j'avais l'impression de voir, et d'ailleurs eux aussi, hein, quand je leur ai parlé au téléphone, et puis on voit dans certains articles, ont eu l'impression de voir une prophétie qui commençait à se mettre en place. Après, on peut toujours dire, ben non, mais en fait, il y a une erreur d'analyse, puisque au final, le pétrole, au lieu d'augmenter, a chuté comme jamais. Ouais. Et il y a eu 2-3 jours de tension dans les supermarchés, sur certains, enfin les pâtes et tout ça, enfin vous l'avez connu comment,
bien sûr,
le début mi-mars, mais au final, au bout d'une semaine, une fois que les gens s'étaient rués sur le PQ et les paquets de pâtes, j'ai pas vu la France tomber dans une guérilla cannibale zombie, quoi.
Donc, en même temps, c'est la pire récession.
On peut toujours prendre avec une pincée de sel, quoi.
Voilà,
mais on est dans une récession majeure, et peut-être qu'on n'a pas vu la fin de la crise, hein,
voilà.
C'est sûr aussi. Oui.
Et Cochet et ce survivaliste américain de droite ne sont pas les seuls. Il y a aussi des scientifiques que vous avez contactés, et c'est très intéressant de votre enquête. Vous restez avec nous, Alfred de Montesquieu. On parle d'effondrement, sauf qui peut le monde. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie d'Alfred de Montesquieu, co-auteur d'un documentaire édifiant qui passe ce soir sur France 5, Effondrement, sauf qui peut le monde, on va parler de collapsologie. C'est un terme inventé par un ingénieur agronome, il s'appelle Pablo Servigne, il est français, il est jeune, il a beaucoup de charisme, il donne des conférences, comme ici quand vous l'avez filmé, c'était à l'Opéra Bastille, devant une salle pleine. Le thème du jour, comment survivre dans un monde effondré.
On va vivre toute notre vie avec la peur, c'est normal d'avoir peur, on est des mammifères et c'est ok. Au contraire, c'est un signe de vie, c'est un signe qu'il y a un danger, qu'il y a des limites, qu'il faut se protéger. Comment maintenir la peur qui vivifie, qui rend vivant, sans sombrer dans l'angoisse paralysante, sidérante? Et la peur, elle a cette capacité de nous montrer le chemin du courage.
Sans mauvais jeu de mots, ce genre de propos, ça vous fait peur? Ou au contraire, c'est une prise de conscience qui vous rassure?
Pour moi, personnellement, ouais. Moi, je suis comme Julien, co-auteur du film, je suis un incurable optimiste. Et en fait, ce qu'on a creusé en faisant ce documentaire, c'est quelque chose qui s'appelle la dynamique de la peur.
Allez-y.
Ou la maïotique de la peur du philosophe Hans Jonas.
L'heuristique de la peur.
Si on veut être
savant, ouais,
l'heuristique
de la peur.
L'heuristique, exactement. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que la peur, qui est donc un réflexe, dont parle très bien la Pablo Servigne d'ailleurs, peut être transformée d'un sentiment négatif, donc qui nous rend prostrés, dans un sentiment positif qui nous force à agir. Mmh. Donc le mammifère qui court quand un lion veut le gober, ou l'humain aujourd'hui qui se rend compte que si le réchauffement climatique le terrifie, plutôt que de s'asseoir en pleurnichant en attendant que la banquise fonde, il peut agir.
Ouais.
Et en fait, c'est un petit peu ça ce que raconte le film, c'est-à-dire il raconte la transformation d'un repli sur soi dans des bunkers qui finalement sont toujours un peu illusoires, bon, même si c'est des milliardaires, même s'ils font 3 mètres d'épaisseur et tout ça, vers en fait une forme d'action.
Ouais.
Et il y a un mouvement, enfin j'espère d'ailleurs que c'est comme ça que vous l'avez perçu, il y a un mouvement en fait de l'ombre vers la lumière dans ce film, il y a
ouais.
quelque chose de positif, même si c'est des gens assez angoissés,
exactement.
Parfois un peu désespérés et tout,
ouais.
vers la fin du film, finalement ouais. Il se retrousse les manches.
Mais racontez pas la fin du film, je voulais racontez pas la fin du film, vous êtes allé aussi, il n'y a pas que des bunkers et des milliardaires, vous êtes allé dans le fin fond des Cévennes où un certain Boris Aubigny, Gine, a monté un lieu dans lequel il reçoit des gens pour vivre au plus près de la nature, une ferme en autarcie. Cet été, il attend 200 personnes
hein, 40
dans sa
stagiaires
ferme.
Par semaine.
Et Donc 200 personnes dans sa ferme, si j'arrive à en placer une, et selon ses estimations, les trois quarts, bac plus 5, plus on est éduqué, plus on a peur.
Ah, je sais pas, c'est une question de peur, mais en tout cas, il y a un mouvement vers l'écologie et vers la permaculture, puisque c'est des stages de permaculture qui touchent de plus en plus les CSP+. Ce qu'on raconte dans le film, il y a des gens de, il y avait des gens de Canal+, des gens de LVMH, des ingénieurs de la RATP, des journalistes,
vous savez quoi,
un journaliste du Monde, une journaliste du Monde.
Enfin, vous avez répondu. Dingue. Vous êtes formidable. Vous avez répondu à la question que je vous posais, c'est que vous citiez des cadres, mais vous donniez pas les. Maintenant, on sait qu'il y a des cadres de Canal et du Monde qui vont faire ces stages. Alors, merci.
De LVMH. Il y avait un mec d'un hedge fund.
Mais LVMH, vous l'avez cité, mais vous n'avez pas cité les gens des médias. Donc merci pour cette info exclue Culture Média. Et on salue Le Monde et Canal+. Vous avez interviewé également un cadre de la mairie de Paris. Il s'appelle Sébastien Maire. Il est responsable de la résilience à la ville de Paris. J'ignorais que cela existait. Et il a réfléchi au rapport entre les messages passés par les autorités et la peur que ces messages peuvent susciter dans la population. Il est question de mensonges.
Depuis des décennies, la culture administrative française considère que la culture du risque est anxiogène, qu'il ne faut pas faire peur à la population et donc il vaut mieux rien dire. Sauf qu'un habitant qui n'est pas préparé et qui n'a pas idée qu'un événement peut se produire est quelqu'un qui risque de paniquer et qui risque de poser des problèmes à l'ordre public le moment où ça arrive.
Et les interviews ont été tournées évidemment avant la crise du coronavirus, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à la version officielle de l'État sur les masques, à laquelle personne n'a cru et ce qui a accentué la défiance entre le pouvoir et les citoyens. Les gens ont d'autant plus peur qu'ils ont bien vu qu'on leur avait menti sur les masques et même sur les tests.
Oui, c'est bien vu d'avoir pris cette citation. Je vous remercie de l'avoir fait. C'est vraiment intéressant. Sébastien Maire, en fait, il parle d'une certaine idéologie de l'État français qui est ce que ses critiques appellent l'État nounou. C'est-à-dire de considérer que l'État sait tout, peut tout, et que le citoyen, en fait, est un peu infantilisé. La crise actuelle du coronavirus, vous venez de le dire, montre la limite de système. Et peut-être qu'on va évoluer vers un système plus nordique, Europe du Nord ou anglo-saxon, où le citoyen est individuellement et collectivement responsable de sa santé et de sa sécurité. Je pense que ce que souligne Sébastien Maire dans le film, c'est peut-être une évolution vers une forme de maturité dans la co-gestion des crises.
Merci.
C'est vraiment intéressant que vous ayez pris ce passage.
Et tout le doc est absolument intéressant. Merci beaucoup Alfred de Montesquieu. Je rappelle le titre, Effondrement, sauf qui peut le monde. Ça passe ce soir sur France 5 dans le cadre des soirées Le Monde en face présentées par Marina Carrère-Dancos. Merci encore d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Merci Philippe.
On va en retrouver maintenant.